Salut les gars et bienvenue dans Radio Dixie. Je crois que pour commencer aujourd'hui, Baptiste, tu as un sujet dont tu souhaites nous parler.
Tout à fait. Je voulais vous demander votre participation pour un projet. Il se trouve que avec Chasse au Texas, nous nous sommes associés à la Fondation Résilience, qui est une association française qui aide les militaires blessés et traumatisés en opération extérieure. Ils font un boulot incroyable pour les réhabiliter, les soutenir, etc. pour les gens que, hélas, l'État et la France, de manière générale, a oublié. Et donc, en collaboration avec eux, on a lancé une opération pour pouvoir régulièrement emmener certains de ces vétérans blessés en voyage au Texas avec nous, par groupe de deux ou par groupe de trois. On va les emmener chasser, pêcher, rencontrer des vétérans américains. Évidemment, de notre côté, on va offrir toute la prestation. Hein. On va travailler de manière entièrement bénévole. Le but, c'est évidemment pas de faire une opération commerciale. Le but, c'est de pouvoir faire un petit geste. Mais on demande votre soutien pour financer les frais irréductibles des voyages, évidemment, parce que le but, c'est que ces mecs-là puissent partir sans débourser un euro. Donc, les billets d'avion, le logement, la nourriture, les tags de chasse, les tags de pêche, toutes les choses qu'on ne peut pas réduire, tous les coûts qu'on ne peut pas réduire. Vous avez le lien qui se met dans le chat. Pierre va vous envoyer le lien dans le chat. Vous pouvez participer à la hauteur que vous voulez. Et cette fois-ci, vu que la Fondation Résilience est une association française, vous pouvez déduire 60% de vos dons, de vos impôts. Évidemment, cet argent sera mieux utilisé pour emmener des vétérans au Texas que que dans vos impôts, évidemment. Donc voilà, nous, c'est notre façon de dire merci. On a déjà un voyage qui est prévu en octobre et il y a déjà deux anciens militaires qui sont sélectionnés. C'est deux mecs super avec qui ça fait un mois que j'échange avec eux, qui sont incroyables. Un ancien chasseur alpin, un ancien parachutiste. Ils ont servi tous les deux énormément, un 21 ans, un 14 ans. Et justement, ça tombe très bien, je vois la question dans le chat. C'est assez accessible le Texas pour les handicapés. Moi qui suis en fauteuil, ça m'intéresse. Eh bien justement, nous sommes complètement équipés pour pouvoir faire chasser des gens à mobilité réduite. C'est-à-dire que nos jeeps sont entièrement équipés avec des bancs sur le toit, etc., avec plein de choses pour que les mecs puissent complètement tirer depuis la jeep si jamais il y a des problèmes de mobilité. Donc voilà, tout est prévu, que ce soit sur la chasse, sur la pêche, etc. On a tout prévu. Donc on va recevoir des gens qui sont évidemment mutilés, handicapés, d'autres qui ont des blessures mentales, qui sont des polytraumatisés, des gens qui sont atteints de syndrome post-traumatique. Le but, c'est de pouvoir faire des voyages réguliers. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a un qui est prévu là en octobre. On a besoin de vous. Faites n'importe quel type de don. Honnêtement, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10, 20. Si vous avez des entreprises, vous pouvez faire plus. Et comme je dis, déduire de vos impôts. Ça va nous aider. Voilà, ça fait longtemps moi que je voulais faire un projet avec les vétérans. Ça se fait énormément ici. Je vois beaucoup de chasse, de pêche, de charité, etc. pour les vétérans. On voulait le faire également.
Wow, eh bien, écoute, c'est intense, c'est un sujet grave. Le pays le plus taxateur du monde ne peut pas prendre soin de ses héros, donc c'est le privé qui doit le faire. Donc bravo pour ça, mec. Tu vas offrir ton temps et pour les frais, tu demandes de l'aide. Ce qui me paraît génial. Le lien sera évidemment aussi en description sous la vidéo YouTube sur des thèmes un peu plus moins graves. Aujourd'hui, on va vous parler des scandales autour des contrôles d'immigration et des refus d'entrée sur le territoire américain concernant arbitres, joueurs et membres du staff de différentes équipes pour la Coupe du Monde. Je sais que tu adores le foot. Ouais. Puis on va enchaîner sur un sujet beaucoup plus grave, celui d'Eric Techner, le directeur du magazine Frontières, qui a été condamné dans le cadre de la loi Samuel Paty à 6 mois de prison avec sursis et 30 000 euros pour avoir publié les données d'avocat dans une enquête sur l'immigration. Vous allez voir, tous les détails sont absolument hallucinants. Drame Samuel Paty, qui avait entraîné 2,5 millions d'euros de subventions à des associations. Et comme d'habitude, ça s'est terminé en détournement de fonds publics.
Évidemment.
De luxe, salaire augmenté de 500%. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Puis si on a le temps, parce qu'on n'a qu'une heure aujourd'hui, on vous parlera de la Corse qui pourrait devenir le premier territoire français à obtenir un statut d'autonomie. Mais c'est ça, mec. Sinon, sur des sujets peut-être un peu plus légers, est-ce que tu as d'autres choses dont tu voulais nous parler?
Non, écoute, cette semaine, ces deux dernières semaines, puisque je crois que le dernier Radio Dixie, c'était il y a 15 jours, on a quand même bien fait le buzz. Hein. On a été surtout moi, mais déjà on a été deux fois avec Radio Dixie sur Twitch en retard. Donc, très content. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion, tu sais, Twitch droitard, normalement, il part. Enfin, en fait, c'est calqué sur Twitch gauchiste, tu sais.
Oui.
Et Twitch gauchiste, en fait, c'était un mec qui partage des extraits, des casseroles un peu des gauchistes quand ils disent des trucs de fou, tu vois. Et généralement, d'ailleurs, c'est des choses qu'ils assument pas trop, tu sais, qui ont été dites vite fait dans un live comme ça, ils se prennent des casseroles. Et Twitch droitard, ils ont voulu faire
C'est
la
des
même chose,
bites pour
mais.
Biro, par exemple.
Voilà, comme le truc sucer des bites qui pue. Qui pue.
C'est ça.
Des bits qui puent pour de l'héros, par exemple, des choses comme ça. Et en fait, Twitch Rata, ils ont voulu faire la même chose, mais moi, tous les extraits qu'ils mettent, je les trouve bien, tu sais. C'est que ils mettent des extraits, il y en a même un, c'est marrant, hein. Ils ont mis un extrait de moi qui parle de la police, etc., tu sais. Donc c'est censé être une casserole, alors que même que le mec qui fait les réels de Radio Dixie avait choisi le même extrait pour en faire un réel. C'est pour dire à quel point c'est des trucs que nous, on assume
Et
complètement.
plus souvent sous les commentaires, les gens disent putain, mais c'est génial, ça permet
Oui,
d'identifier les
il n'y a que
meilleures
des
positions de
droitards et
droite.
tout. En
Il
fait,
n'y a
c'est
que
des
les
subtils.
pépites grâce à vous.
Ouais,
Merci les gars. On va les
c'est ça,
suivre.
Twitch droitard qui bosse pour nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Twitch droitard. Ils nous font pas mal de pubs. Franchement, c'est sympa. Et moi, j'ai vu un pic de visites sur Instagram grâce à eux. Donc on est toujours content. Et puis après, il y a eu l'extrait. Alors ça aussi, ça m'a fait rire, l'extrait où je suis ému à la fin de mon.
Ah oui.
Du discours que j'avais fait à TPPF aux États-Unis. Et ça, c'est pareil, tu sais, les gens l'ont partagé comme un truc genre, tu sais, oh là là, regardez, c'est le truc que je voudrais pas voir. Mais les gars, c'est moi qui en ai fait la pub. J'ai pas arrêté de dire aux gens d'aller voir la vidéo. Donc évidemment que j'assume complètement et que j'ai pas honte d'avoir été ému. Surtout que quand je l'ai enregistré, il faut savoir que ce discours, je l'ai enregistré devant du public. Quand j'ai été ému à la fin, beaucoup de gens. Du coup, dans l'audience, était ému aussi, tu vois. C'était un peu un moment, un peu.
Ouais.
Bah voilà, tu vois. Et après, j'ai dit à l'équipe, écoutez, si vous voulez qu'on le retourne, qu'on refasse la fin, parce que voilà, tu vois. Et les gens ont dit non, franchement, honnêtement, au moins c'est sincère, etc. Donc moi, ça m'a pas dérangé du tout. J'assume totalement ce genre de choses. Enfin, je veux dire, en fait, les gens qui se moquent et qui vont dire oui, c'est un truc de fragile, etc. En fait, faut être soi-même extrêmement fragile. Pour penser que de pleurer pour son pays, tu vois, d'être ému
Ses
pour son pays,
libertés.
c'est un truc de fragile. Voilà, c'est un truc de fragile. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire un père qui pleure au mariage de sa fille, c'est un fragile. Si tu pleures à l'enterrement de ta mère, t'es un fragile. Ça n'a aucun sens parce que eux-mêmes, c'est là-dessus qu'ils basent leur solidité. Mais tu sais, bon, moi, je veux dire, j'ai rien à prouver. Tu sais, j'ai été un sportif de haut niveau. J'ai toujours, dans la rue, je me suis toujours tenu la tête haute. Je me suis battu un nombre incalculable de fois pour mes idées. Je provins à mon foyer, à ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tout mon rôle d'homme, je suis un chef d'entreprise qui réussit. Enfin, mon rôle d'homme, tu vois, j'ai plus rien du tout à prouver, tu vois. Alors, si les gens pensent que j'ai honte de pleurer pour un truc comme ça, mais alors, les gars, vous êtes loin, loin, loin. C'est vraiment, c'est
Mais
d'une
parce qu'ils sont
tristesse.
cons, parce que mec, déjà au début, t'aurais pu déjà premièrement demander à ce que ce soit coupé au montage ou à le
Bien
retourner toi-même.
sûr,
Tu
bien
l'as pas
sûr.
fait. Dès que ça a été
Bah oui.
publié, tu me l'as partagé, tu l'as partagé à tout le monde.
Voilà,
Je veux dire,
exactement.
t'avais été, pour toi, ça présentait aucun
Exactement.
problème, aucune honte,
Non, non.
initialement.
Et puis donc, les gauchistes, évidemment. Alors c'est marrant parce que les gauchistes, ils sautent dessus. C'est-à-dire les mêmes qui disent les hommes doivent assumer leurs sentiments, etc. Tu sais, voilà, tu sais, de leur part de féminité. Alors là, par contre, ça me traite de fragile et tout. Donc, la dichotomie dans le discours total. Et puis après, les quelques, tu sais, t'as toujours les quelques pseudo-droitards. Qui viennent pour gratter du buzz, mais bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça leur fait plaisir, c'est dommage. Il y a même un mec qu'on avait partagé nous-mêmes, tu vois, on lui fera
Oui.
plus de pub, voilà, qui a essayé de gratter du buzz, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment gratter du buzz. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai plus de peine pour eux s'ils sont pas capables, mais tu sais, ça en dit long aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ne comprennent pas ça parce que il y a beaucoup de gens qui sont soi-disant inscrits à droite, mais c'est plus une posture, tu vois.
Un truc comme ça, quoi, tu sais, un
Ouais, et
semi-racisme.
puis c'est une posture, tu vois. Donc en fait, ils comprennent pas que pour nous, c'est pas un jeu, tu vois. C'est
Ah, ok.
réel.
Ouais.
Tu vois, moi, c'est ce qui se passe en France, etc. Ça me touche vraiment parce que j'ai une vraie attache et que j'ai de vraies croyances, etc. Donc évidemment, je veux dire, tu sais, en ce moment, ma grand-mère, elle est très, très malade. Bon bah je sais que je vais sûrement pas pouvoir la revoir tu vois parce que y a je pense pas être capable de pouvoir rentrer en France sans avoir des problèmes avec la justice évidemment que quand je pense à ça bah ça me touche tu vois c'est évident donc il y a des il y a c'est plein de choses tu vois Donc penser que faut être fragile pour être ému pour ça, bah écoutez, faut être une merde. C'est dommage. Ça donne, je trouve que ça donne plus une sale image d'eux finalement. Tu vois, ils ont voulu se moquer de moi, mais ça donne une image vraiment terrible à deux, tu vois.
Déjà, ça démontre ta sincérité. Et puis de deux, comment dirais-je, y a, tous ces gens-là, ils font leur beurre en critiquant d'autres contenus. C'est de la merde.
Oui,
Et
pour
alors
cause
que nous,
rien.
mec, nous, la réalité, et d'ailleurs, quand tu présentes une vidéo comme ça prouve que c'est de la sincérité et qu'on défend des principes, qu'on n'est pas là par posture, pour du fric ou quoi que ce soit d'autre initialement.
Bah ouais, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand même. C'est juste. C'est dommage. Ils se sont tous mis, tu vois, rentrés dans la brèche comme ça. Finalement, ça a donné une image un peu dégueulasse de tout ça. Ça montre que dans ce milieu, il y a quand même beaucoup. Je pense que pour les spectateurs, pour les gens qui regardent et qui sont pas juste des haters purs, je pense qu'il y a eu beaucoup de ça, a déçu beaucoup de gens.
Ouais, c'est ça, je pense que ça fait plus de bien à ton image que l'inverse par rapport au grand public. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils t'ont attaqué juste sur la forme, mec. À aucun moment sur le fond, sur la
Bah,
liberté,
ils
sur
n'ont
les
pas regardé la
sentiments.
vidéo, hein. Il y a 25 minutes de vidéo. C'est 20, un discours de 20 minutes de vidéo en anglais, d'un discours qui démontre le socialisme, etc., argument par argument. C'est des exercices dont les mecs sont absolument incapables. Tu vois, tous les mecs là qui ont critiqué, etc., ils sont absolument incapables de produire quelque chose d'aussi construit que ça. Tu vois, donc évidemment, il faut attaquer sur la forme et sur ce genre de choses parce que c'est. Et tous les mecs qui, eux, sont des mecs qui travaillent et qui sont capables, comme Rojdi, comme d'autres, bah, eux, évidemment, ils m'ont soutenu. Tu vois, mais bon, je vous sentais pas obligé de. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et tout, de me soutenir ou pas. Honnêtement, je vous le dis très honnêtement, j'en ai vraiment. Rien à branler, vous pouvez demander aux guises, hein. J'en ai vraiment rien à branler, on en a rigolé tous les deux, toutes les 2 semaines. Vous savez, si à chaque fois que des mecs font des vidéos sur moi, des haters, etc., ça me mettait la rate au courbouillon, ça fait longtemps que j'aurais arrêté, hein. Tu savez, pendant que ces mecs
Oui.
étaient en train dans leur. Faut comprendre que ces gars-là, là, que vous voyez sur Twitch et tout, ils sont dans leur chambre, chez leur mère ou dans leur appart de merde, etc., avec des physiques dégueulasses, etc. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, à se faire un smic sur Twitch avec leur gros bide, etc., dans la chambre, dans leur mère, à dire, oh, regardez, c'est un fragile. Au moment où ils faisaient cette vidéo, j'étais sur un bateau au Texas, en train de vivre ma meilleure vie, tu vois, avec les gens que j'aime, etc. Enfin, les gars, tu voyez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je peux pas être malheureux de ce genre de choses. C'est juste, c'est risible, c'est tout, quoi.
Oui, clairement, clairement,
Bah ouais.
clairement. Moi, ça me paraît une évidence et je suis convaincu que le grand public a pas du tout pensé ce que beaucoup de créateurs de contenu de merde ont dit.
Oh,
D'ailleurs,
n'importe
il
qui avec un
y en a
QI.
plein comme. Oui, c'est ça. Il y a des gars comme Le Braque, comme
Oui.
Victor Ferry, comme Rojdi et compagnie, comme tu l'as dit, qui t'ont défendu. Et
Oui. Bah, tous
puis,
les mecs
et puis,
intelligents du game,
ouais, c'est
quasiment.
ça, ouais. Et pour mettre en contexte, en fait, tu prévenais les Américains, notamment les Texans, sur le fait de ce qui est arrivé en Europe et que tu voulais pas que ça se reproduise aux États-Unis.
Oui. Oui, c'est une
Et
vidéo qui n'est pas à
tu parlais,
destination des.
ouais,
Qui
et
n'est
tu
pas à
parlais de ta liberté.
destination des Français.
Et tu parlais de la liberté, de ta liberté, de la liberté d'un peuple. C'est quand même un sujet fondamental. C'était pas n'importe quel sujet à la con. Mais bon, t'as bien fait d'en parler parce que c'est drôle au final.
Non, mais oui, c'est rigolo. Et puis, comme je dis, si nous, on n'était pas déjà extrêmement pragmatiques, je pense que c'est juste décevant de la part de tous ces gens. Ça montre à quel point le milieu de la création à droite, il est gangréné. C'est que des mecs qui crachent dans la soupe, parce qu'en fait, c'est grâce à des mecs comme moi, Papacito, etc., des gens qui sont arrivés à l'époque où il n'y avait rien, qui ont fait des contenus, qui ont diversifié, qui ont ouvert la brèche, que eux peuvent surfer sur la vague et faire leur contenu. Et au lieu d'être un petit peu, voilà, d'essayer de faire quelque chose de bien, de créer, d'apporter leur pierre à l'édifice, ils crachent dans la soupe et ils sont jaloux, tu sais, bouffés par la jalousie. Bah, c'est dommage,
Tu sais,
quoi.
pour moi, il y en a beaucoup,
Dommage.
c'est des gauchistes, hein. C'est des mecs qui votent RN, complètement
Ah, mais
socialistes.
ah, ben, c'est tous des gauchistes mentaux. Bah, je
Ouais,
te
c'est ça,
rassure.
ouais.
Si tu compares leur mode de vie, si demain tu les mets en débat, tu leur dis, OK, dis-moi exactement, qu'est-ce que tu as de traditionnel dans ton mode de vie? Mais alors là, les gars, vous pouvez rester 1 heure, hein. Il n'y a rien. Ils seront pas capables de vous sortir un seul truc. Ni dans la façon dont ils vivent, ni ils s'alimentent, ni dans la façon. Rien, 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 rien. Et même, tu peux leur. Même un autre truc, hein. Juste demande-leur qu'est-ce qu'ils ont apporté. Tu vois? Moi, je peux dire ce que j'ai apporté. Tu vois, si on me demande qu'est-ce que je pense que j'ai apporté à la France ou dans ce milieu, bah, je pense que déjà j'ai créé des contenus sur des sujets qui ont été diversifiés. J'ai mis en avant le patrimoine. J'ai aidé à se monter SOS Calvaire quand même, qui est une grosse association de restauration des calvaires en France. Tu vois, du patrimoine. J'ai énormément mis en avant le catholicisme. La Bérafray, j'ai réussi à lancer la Bérafray, hein, il le dit dans son livre. J'ai créé une association de soutien aux mamans en difficulté. J'ai fait plusieurs levées de fonds, dont celle que je viens de faire là pour les militaires. Enfin, tu vois, je peux dire ce que j'ai fait. Voilà, je peux dire ce que j'ai fait et ce que je pense a été bénéfique pour la France. Maintenant, demandez-leur ce qu'ils ont fait.
Mais en fait, ils sont même pas intéressants sur les idées, sur les principes. Ils sont juste en train
rien.
De critiquer,
ouais,
de faire de la merde, du buzz.
Alors
que, d'un point de vue personnel, hein, moi, ne serait-ce que l'exposition aux idées de la liberté au public de droite français, que
voilà,
du c'est déjà 100 fois plus que ce que feraient ces gars dans leur vie.
C'est ça, c'est ça.
Et en parlant de fils de pute, je vais vous faire une petite citation.
Ah. Vas-y.
Vous allez creuser le déficit ou la dette, et c'est nos enfants qui paieront. Je ne veux aucune de ces solutions. Voilà ce que tweetait Emmanuel Macron en 2017. Et depuis, il a lui-même creusé la dette publique de 1300 milliards d'euros. C'est 44% du PIB français. Et c'est
c'était
vos
notre
enfants
époque.
Qui
paieront. C'était notre époque, 2017, il y a 9 ans.
C'était le même contexte.
Non, alors, c'était notre époque. Non, mais t'imagines, c'est incroyable quand même, quand qu'on puisse ressortir ça. Merci Twitter.
Et il n'a pas d'enfant, hein, toujours pas, donc c'est même pas ses enfants qui paieront, c'est les vôtres, les gars.
Non, mais c'est ouais, après sa femme, ça fait longtemps qu'elle ne peut plus faire d'enfant.
Elle a déjà pu, je sais pas si elle a déjà pu en faire. Hein.
Voilà, c'est ça. A été... On va pas revenir là-dessus. Si, soi-disant, elle a des enfants. Elle a des enfants, soi-disant. Bref. On va pas revenir là-dessus.
On va pas revenir sur ce sujet. Mais mec, il a augmenté la dette.
Mais c'est incroyable quand tu regardes.
L'augmentation de sa dette, mec, c'est l'augmentation de la dette depuis 2017 par Macron, c'est plus que le PIB de la Suisse ou de la Pologne. Je sais pas si vous vous rendez compte des ordres de grandeur.
Mais non, c'est pas
1300 milliards. Le PIB de la Suisse, c'est 1200. Le PIB de la Pologne, c'est 1200 à peu près aussi. Ouais. C'est 44% du PIB français, 1300 milliards.
Oh là.
Et ça, c'est l'augmentation de la dette depuis que Macron est au pouvoir. Alors, l'ultra-libéral de mes couilles, vous pouvez vous faire en
compte. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un président ultra-libéral, d'accord. Oui.
Et ça, c'est la pire chose du monde, mec. Parce que les gens, pour aller faire des thalassos, pour avoir des RSA ou des je sais pas quoi payés par l'État, ils endettent les futures générations, des bébés qui sont pas encore nés. C'est atroce. Mais bon, bref. Moi, de mon côté, je voulais vous rappeler de vous abonner à mon Patreon, sur lequel vous avez accès en avant-première à tous les Radio Dixie au format podcast, ainsi qu'à l'émission hebdomadaire que je fais avec mes potes libertariens. Cette semaine, on vous a par exemple parlé de l'hyperinflation du Zimbabwe, avec des billets de banque de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens, c'est pas des conneries, et à des rues françaises portant le nom des pires ordures communistes. Rendez-vous sur patreon.com/leguise, le lien est en description. Et vous pouvez aussi aller sur leguise.com pour réserver un appel avec moi afin de vous orienter dans votre fiscalité et ou votre expatriation, ou m'envoyer un email à contact@leguise.com si vous souhaitez obtenir votre carte de résidence au Paraguay ou investir dans le pays. Et pour terminer, j'ai d'ailleurs mis en ligne la nouvelle page de présentation pour l'expatriation au Paraguay sur leguise.com, dans laquelle je vous présente le processus étape par étape, ce qui est inclus, la communauté sur place, les tarifs et le reste. Vous trouverez aussi le lien en description, sans oublier le Patreon de Baptiste, évidemment, qui sera aussi en description. Parce que là, les gars, on va commencer avec le sport préféré de Baptiste.
Ah,
le football. Le football. Alors, pour parler du football, on va vous montrer un petit extrait de la Coupe du Monde 2026, avec ces scandales, entre guillemets, autour des contrôles d'immigration, des refus d'entrée sur territoire pour des arbitres, des joueurs, etc. Je vous mets ça tout de suite à l'écran et puis on va réagir.
Lui, c'est Omar Abdulkadir Artan, l'un des meilleurs arbitres africains. Il a été sélectionné à la Coupe du Monde 2026, mais il vient d'être refoulé à son entrée aux États-Unis le 8 juin. Pourtant, il était en possession d'un visa valide. La raison invoquée par un responsable de l'administration américaine, l'arbitre était en relation avec des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes. Forcé de prendre un avion retour direction Istanbul, Omar Abdulkadir Artan dédramatise. Mais l'arbitre n'est pas le seul à avoir été mis sur le banc de touche lors de son arrivée pour la Coupe du Monde de football 2026. Voici une autre image polémique. L'équipe du Sénégal est à l'aéroport de Raleigh, Caroline du Nord, le 7 juin 2026. Et les joueurs sont passés au détecteur de métaux, à même le tarmac. Ces images diffusées sur les réseaux sociaux ont indigné de nombreux internautes. Beaucoup y voient de la discrimination au regard du traitement américain réservé à d'autres nations. La fédération sénégalaise a relativisé ces contrôles comme une manière d'optimiser le temps de déplacement de la délégation. La veille, à Chicago, c'est l'attaquant vedette irakien Ayman Hussein qui a été retenu près de 7 heures à l'aéroport. Le photographe de son équipe, lui, a carrément été refusé d'entrer sur le territoire américain, malgré un visa en règle. À New York, l'équipe d'Ouzbékistan a aussi été contrôlée pour rejoindre son stade d'entraînement. Sur ces images, on leur demande de s'éloigner de leur sac, fouillé par des chiens. Enfin, il y a l'Iran. En raison des fortes tensions diplomatiques et militaires actuelles avec Washington, la sélection iranienne a été contrainte d'établir son camp de base à Tijuana, au Mexique. Washington a autorisé son arrivée la veille des matchs. La FIFA n'a pas réagi sur ces affaires, mais a expliqué dans un communiqué qu'elle n'intervenait pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas.
Voilà, qu'est-ce que tu en penses, mec ?
Non, mais c'est... les gens découvrent ce que c'est que de la sécurité, tu sais, en fait, tout simplement. Genre, oh là là, mais les gars, mais vous croyez quoi ? Les États-Unis, c'est pas l'Europe, en fait, hein. C'est pas une passoire. Heureusement, je peux vous dire, heureusement qu'ils font ça. Et même en faisant tout ça, c'est pas dit qu'on n'est pas une merde. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, mais évidemment, ils ont refusé un arbitre. Oh ouais, la raison, juste parce qu'il est en contact avec des gens d'une organisation terroriste. Mais, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, enfin, vous rendez compte combien. Parce que, en fait, quand on parle de la Coupe du Monde de football et des équipes, etc., et du staff, on parle pas de 3-4 personnes, hein. C'est oui. Des centaines de personnes. À chaque équipe vient avec des dizaines et des dizaines de personnes. Donc évidemment qu'il faut faire des contrôles ultra renforcés parce que c'est une brèche magnifique. Vous savez l'équipe iranienne qui vient là. Quand on dit ouais, il y a des contrôles renforcés et tout, mais vous savez que normalement, c'est déjà une exception puisque normalement, si vous êtes allé en Iran, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire américain comme ça. D'accord ? Aujourd'hui. Donc ils font déjà des exceptions. Je rappelle que dans les années 90, il me semble que c'était aux Jeux Olympiques, l'Irak avait envoyé justement des espions, le régime Saddam Hussein avait envoyé des espions pendant l'opération Tempête du Désert, il me semble, il faut vérifier, mais il me semble que c'est ça, à travers des délégations olympiques, tu vois. Ça a déjà été fait plein de fois, à l'époque de la guerre froide également. Évidemment que c'est
forcément très facile. De fou. L'Union européenne, ils veulent pas que les Russes participent aux Jeux olympiques, etc.
Exactement.
Par contre, les Iraniens participent. Exactement. On leur demande juste un contrôle et les gauchistes s'exaspèrent.
Non, mais c'est ridicule. Évidemment qu'il faut faire extrêmement attention. Évidemment que c'est une porte d'entrée parfaite pour le terrorisme, pour l'ingérence étrangère, pour les espions, etc. Vous imaginez bien l'équipe du Sénégal, ce genre de pays, tout ça. C'est très facile d'acheter quelqu'un. C'est très facile de mettre. Enfin, comment vous voulez-vous contrôler les mecs? Ils arrivent en disant « Ouais, mais c'est un soigneur, mais on sait quoi de lui? Est-ce qu'on peut avoir son background, etc. ?» Enfin, je veux dire, vous imaginez bien que des énormes organisations terroristes comme Daesh, comme Boko Haram,
les moyens d'infiltrer le staff,
ils ont les moyens d'infiltrer ce genre de choses, mais très facilement. Donc, il faut évidemment des contrôles ultra renforcés. Et en fait, on s'en bat les couilles que « Ah ouais, mais on ne peut pas avoir notre kiné, ouais, mais on peut pas avoir… » Mais on s'en bat les couilles, en fait. On n'en a rien à branler.
Si, surtout qu'au final, si il est bon, hein, c'est juste un arbitre qui a refusé.
Ouais, s'il y a un arbitre, ça dégage, photographe. Et puis c'est tout. Ah, mais voilà, c'est tout, ça dégage. Ça dégage.
Les gens, ils peuvent pas d'un côté regretter le Bataclan et de l'autre côté reprocher à un gouvernement de faire attention à qui rentre sur le territoire.
Oui, vous rappelez de l'attaque terroriste aux Jeux Olympiques, l'équipe israélienne qui se fait tirer dessus, etc. Enfin, c'est ça que vous voulez, honnêtement, les gars.
Les trucs de Munich, avant que tu continues, les deux chefs du commando terroriste étaient membres du staff dans l'enceinte des Jeux Olympiques. Et les autres membres du commando seraient rentrés sur le territoire avec de faux passeports.
Non, mais bien, voilà, mais évidemment, enfin, je veux dire, ça semble évident que c'est la porte d'entrée parfaite. Et quand ils montrent l'équipe du Sénégal qui se fait contrôler sur le tarmac, etc., là, je peux vous garantir que oui, ça n'a rien à voir, c'est effectivement un privilège et pas du tout une discrimination. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans une entreprise, dans une compagnie de jet privé, hein, j'en ai déjà parlé. Quand il y avait des personnes, des VIP qui étaient très pressées, c'est aussi ce qu'on faisait. Donc là, ce n'était pas des discriminations, c'est-à-dire que pour éviter de les faire aller jusqu'au centre de contrôle, etc., on envoyait l'équipe de contrôle directement sur le tarmac, comme ça, ils prenaient la voiture directement depuis les pistes et ils partaient directement. Donc ça, c'est quelque chose au contraire, parce que là, l'équipe du Sénégal, ça leur permet de ne pas passer par l'aéroport où il y a 1 million de personnes, tu vois. Donc les histoires, oh, regardez, c'est de la discrimination, mais pas du tout, au contraire, c'est-à-dire qu'ils sont traités comme des VIP, tu vois. Enfin, c'est...
On présente
bref,
ça, c'est
fils de... Oh ouais, ils font nifler les sacs par les chiens. Bah oui, bah comme tout le monde, quoi, c'est les règles, enfin... Là, pour le coup, même en France, c'est pareil. Il y a les chiens de la GTA, etc., qui vont s'occuper, qui vont renifler ça. Enfin, ça, c'est pas du tout un truc exceptionnel. Hein. Comment on te déforme le truc. Mais bon, là, de toute façon, mec, je vais te dire un truc. Honnêtement, et pourtant, j'aime pas le foot. Hein. Avoir organisé la FIFA aux États-Unis, c'est une énorme connerie. Honnêtement, c'est une énorme connerie. Et je pense que pour les fans, c'est vraiment pas terrible parce qu'en fait, les Américains, ils s'en battent les couilles. En fait, c'est ça le souci. Non, mais il faut bien comprendre que les gens arrivent dans un pays. Là, ici au Texas, c'est nous qui avons. Et ici, à côté, là, à Dallas, d'accord, à 1h30 d'ici, il y a 14 matchs qui vont être disputés là. C'est le stade où il va y avoir le plus de matchs. Le stade des Dallas Cowboys, c'est le stade où il va y avoir le plus de matchs. Ça crée déjà énormément de problèmes. Hein. Mais j'en peux déjà plus, moi. Je n'en peux déjà plus. Il va y avoir des gros embrouilles et je pense que ça va très mal finir avec les Texans. Ah, je te le dis honnêtement.
Comment ça
va très mal finir. Parce qu'en fait, les supporters, ils respectent rien. Déjà, et ils ont, tu vois, ils comprennent pas que ici ça marche différemment. Je parlais avec un barman là, d'un saloon à Fort Worth. Il faut savoir que c'est un saloon qui est ouvert tous les soirs. Il y a des groupes qui jouent, etc. C'est un saloon où il y a beaucoup de monde qui vient, très très visité. Mais ici, il y a même pas de videur. Ok.
Ah.
Là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de mettre un flic maintenant tous les jours dans le saloon parce que les mecs qui rentrent là, ils sont rentrés, les supporters et tout, ils ont arraché le micro du mec de country qui chantait pour chanter leur chant de supporter dans le bar, tu vois.
C'était quoi? C'était
en fait,
des Écossais?
Ils comprennent pas. c'était des Croates. Il y a les Croates et les Anglais. Okay. Mais ils comprennent pas que, en fait, ici, ça, à un moment, ça va mal se passer, tu vois.
Les normes sont différentes et tu respectes la propriété.
Les normes
privée,
sont différentes et les Texans sont pas comme ça. Et faut comprendre aussi que les Texans, ils s'en battent les couilles du foot complètement. Et d'ailleurs, ils se rendent même pas compte de la taille de l'événement. Du coup, ils sont surpris. Tu vois, moi, mes potes, quand on leur dit la Coupe du Monde de foot, donc de soccer ici, bah, eux, ils se disent « Ouais, bah, c'est une Coupe du Monde. » Mais pour eux, c'est, si je leur disais la Coupe du Monde de cricket ou de, tu vois, golf, tu vois, c'est, voilà, tu vois, c'est un événement sportif. Mais dans leur tête, vu qu'ils ne regardent pas ça, ils ne se rendent pas compte que c'est l'événement planétaire, tu vois. Donc du coup, là, à l'aéroport, partout et tout, tu sais, ils voient des milliers de supporters et c'est le bordel, hein. Il y a énormément de monde et ils sont surpris, quoi. Ils se disent, putain, il y a du monde. Et puis les Texans, ils sont sympas de ouf, tu sais. Donc, ils ne captent pas le truc, tu vois. Le sport ici, c'est très, très différent. Tu vois, par exemple, quand tu vas voir un match, pour vous donner une idée, quand tu vas voir un match de football américain ou de baseball, ou tu vois, qui sont des sports vraiment très très importants ici, quand vous allez dans les tribunes, les supporters sont mélangés. Vous êtes mélangés. Il n'y a pas une tribune d'une équipe, une tribune de l'autre. C'est-à-dire, moi, quand je vais voir un match des Texas Rangers, je peux avoir le mec assis à côté de moi qui est pour l'équipe d'en face. Vous voyez, donc en fait, pour eux, le sport, c'est bon enfant, c'est familial.
Ça ne se tape pas dans la rue à cause de sport, quoi.
Non. Donc du coup, bah, eux, ils sont sympas et du coup, ils encouragent les supporters et ils ne se rendent pas compte des fois qu'en fait, ils sont en train de créer des trucs de fou, tu vois, qu'en fait, il en faut peu pour les démarrer. Et, tu sais, je vois,
c'était quoi, c'était à Times Square, là. À Times Square, il y a des Argentins et des Algériens qui se sont tapés sur la gueule.
Ouais. Bon, après, c'est encore autre chose. C'est à New York. Moi, je te parle de ce qui se passe ici.
C'est vrai.
Mais bon, c'est… Honnêtement, là, moi, j'en peux déjà plus, tu vois.
Et, tu détestes encore plus le football qu'avant.
Ouais, et puis en fait, tu vois, c'est le problème aussi, c'est que tu vois, c'est les gens. Et en fait, ici, tout le monde se comporte bien, et là, tu vois, les mecs se comportent dégueulassement. Et pourtant, c'est des blancs. Hein. Mais tu vois, ils s'achètent les papiers par terre, ça respecte pas, tu vois, ça casse les bouteilles dans la rue. Et ça, c'est pas du tout courant ici. Ici, tu vas sur les parkings des fast-food, c'est ultra propre, tu vois. Il y a pas un papier par terre, il y a rien, quoi. Donc ça donne une image dégueulasse des Européens, quoi. Et bon, bah, c'est. Et à un moment, je sais qu'il va y avoir une embrouille. Il y a un mec qui va se faire shooter, soit par un flic, soit par un Texan. Mais c'est sûr.
Nostradamus, arrête. Arrête, Nostradamus, ça va arriver. Arrête de balancer des trucs comme ça.
Bah non, mais je te le dis honnêtement. Oui,
non, mais c'est une analyse intéressante parce que tu es sur place. Je dis ça pour rigoler, évidemment. Mais c'est une crise de valeur, hein, les gars. L'Occident, l'Europe, c'est une crise de valeur. Hein. C'est pour ça que ça part en couille. Et c'est pour ça qu'au Texas, ça se passe bien parce que les gens, ils ont des valeurs ancrées, des principes qui respectent dans leur vie quotidienne. Sinon, mec, pour terminer là-dessus, il y a des gros événements sportifs qui ont déjà été visés par des attentats islamistes. Le marathon de Boston en 2013,
sûr,
le match France-Allemagne au Stade de France en 2015, dont tout le monde se souvient. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. C'est important de contrôler qui rentre sur son territoire, évidemment. D'autres choses à rajouter là-dessus, mec, ou est-ce que tu veux passer au prochain sujet?
Non, allons-y.
Parfait. En parlant d'immigration, on va enchaîner sur un sujet beaucoup plus grave, celui d'Éric Techner, le directeur du magazine Frontières, qui a été condamné jeudi à 6 mois de prison avec sursis et 30 000 euros pour avoir publié les données d'avocats spécialistes en droit des étrangers dans une enquête sur l'immigration. Écoutez cette intervention.
Je ne m'attendais pas du tout à cette condamnation. Il faut dire qu'elle est historique et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un an, en effet, on a publié un magazine sur le business de l'immigration. Beaucoup de Français, nos auditeurs, ne comprennent pas parfois pourquoi un clandestin violeur sous OQTF n'est pas expulsé. Et on a voulu faire une enquête sourcée. On a parlé de la question des juges, la question des journalistes, la question juridique du Conseil constitutionnel et également de la question des avocats en droit des étrangers. C'était une enquête véritablement sourcée. À ce moment-là, ça a créé une véritable bronca parce que personne n'avait jamais enquêté sur ce sujet et donc on a eu plusieurs plaintes qui ont eu lieu, notamment à Marseille. On a gagné un procès, notamment à Saint-Brieuc pour diffamation. On a également gagné à ce procès. Et là, Bobigny, j'ai été étonnamment condamné donc à 6 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 20 000 euros de dommages et intérêts. Pourquoi? Pas par diffamation, pas pour injure publique. Ils ont condamné le droit de la presse, la question du droit de la presse, pour me condamner sur la loi Samuel Paty. C'est ça qui est absolument sidérant. C'est-à-dire que lorsque Samuel Paty a été assassiné par un terroriste islamiste, on a créé une loi pour empêcher que cela arrive. Eh bien, pour la première fois, c'est vraiment la première fois, cette loi est dévoyée pour faire en sorte que quelqu'un qui critique l'immigration, à travers une enquête à nouveau journalistique, puisse être condamné de la sorte. Et c'est quelque chose qui, en fait, est le début d'un engrenage absolument sidérant. C'est ce qu'on appelle le déni.
La loi Samuel Paty, hein, pour mettre un peu de contexte, c'est
Et voilà.
simplement le partage d'informations qui pourrait entraîner des actes contre les personnes en question.
Gros soutien déjà à Eric Tegner, parce que il faut pas prendre ça à la légère. 6 mois de sursis, les gens se disent, oh, bah ça, c'est du sursis. Mais vous savez, le sursis, un jour, ça tombe. Là, si, il peut très bien demain se prendre une deuxième condamnation pour autre chose et qu'on fasse tomber son sursis et, ça, et se retrouver 6 mois en prison. Donc c'est déjà, c'est pas le problème. Enfin, c'est un lourd sacrifice de prendre du sursis pour ses idées, sachant que ce travail, le travail qu'ils ont fait sur le business justement de l'immigration, il est hyper intéressant. On en a, je sais pas si on en avait parlé, nous je crois pas, mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait en montrant comment il y a des systèmes, des avocats qui prennent de l'argent monstre en défendant des clandestins,
Un
etc.
gros
C'est vraiment
business.
un travail, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils ont fait. Mais c'est le parfait exemple de quelque chose que je vous ai dit dans de nombreux cas, dans de nombreux épisodes. C'est, vous voyez la loi Samuel Paty. C'est le parfait exemple. Quand je vous dis, n'acceptez pas des lois liberticides sous prétexte que ça va dans le bon sens, sur la bonne cause, parce qu'ils vont les utiliser contre vous. Rappelez-vous quand je vous disais les lois sur le voile, je me suis fait bien démonter. Quand moi je disais je suis contre les lois sur le, de l'interdiction du port du voile, de l'interdiction de la burqa, etc., je me suis fait démonter par les mêmes connards en permanence, tu vois, c'est n'importe quoi. Et je vous disais, si vous laissez ces lois-là se passer, ils vont les utiliser contre vous. Les lois sur le porno, la cybersécurité, soi-disant pour protéger de la pédophilie, pareil, je suis contre. Et je vous ai dit, c'est des lois qui vont être utilisées contre vous. Et bah, c'est le parfait exemple. Vous voyez, la loi Samuel Paty, tout le monde, tous les droitards sont là. Bah, super, c'est pour se protéger contre l'islamisme, etc. Et bah voilà, ça sert à quoi? Ça sert à condamner Eric Tegner. C'est pour ça, il faut arrêter de tomber dans ces pièges. Il ne faut pas donner d'armes au gouvernement. Même si on vous fait passer, soi-disant que c'est pour notre bien, soi-disant, etc., ces armes, toutes les armes que vous donnez au gouvernement, à l'État, se retourneront contre vous. Si vous leur donnez une épée, elle sera pointée dans votre
Ils ne
direction.
sont pas bien intentionnés, hein. Ils ne sont pas bien intentionnés, ce n'est
Non.
qu'un prétexte pour avoir pour plus de contrôle et pour défendre
On
encore plus la
utilise la
République.
loi Samuel Paty pour
Putain.
condamner Eric Tegner. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais c'est couru d'avance. Et les lois, je vous le dis, les lois sur le, s'il y a les lois sur le voile, la burqa, ce que vous voulez, ce sera utilisé contre les catholiques. Si je peux le parier, ce sera utilisé contre les catholiques. Les lois sur la cybersécurité pour contre la pédophilie, ce que vous voulez, seront utilisées contre les lanceurs d'alerte. C'est évident. Vraiment, c'est limpide. Donc ça, c'est vraiment le parfait exemple de pourquoi il ne faut absolument pas soutenir ces lois et pourquoi il faut absolument s'y opposer.
Ouais, échangez votre liberté contre de la sécurité, vous aurez aucun des deux. Voici l'exemple parfait.
Exactement.
30 000 euros d'amende, hein, 22 000 euros, c'est un SMIC net
Encore.
annuel. Hein. Juste pour
Non,
vous
mais
donner
franchement,
une.
franchement.
En fait,
Sachant que le juge...
c'est 10 000 euros d'amende et 20 000 euros de dommages et intérêts, pour être précis.
Condamné par un juge qui s'appelle, je sais plus comment, Tariq, je sais pas quoi, ou je me
Ah
rappelle plus
oui,
son
c'est
nom.
plutôt cocasse ça. Le juge qui a prononcé la condamnation s'appelle Youssef Badr. Il est d'origine
Voilà.
marocaine et il a écrit l'année dernière un livre intitulé Pour une justice aux 1 000 visages, dans lequel il dénonce le manque de diversité ethnique dans la magistrature.
Voilà, c'est un arabe gauchiste, voilà, tout simplement. C'est un juge, non, mais c'est ça, c'est un juge extrêmement politisé, hein, comme la plupart. Et donc voilà, on utilise. C'est, t'imagines, ce mec-là, ce gars-là, il peut utiliser la loi Samuel Paty pour détruire des mecs d'extrême droite. C'est juste, voilà,
Putain. Et en
c'est
plus,
le.
il agit dans le concret, hein, parce qu'il a fondé une association qui s'appelle La Courte Échelle, quel joli nom, qui offre du mentorat à des étudiants en droit issus des banlieues pour les aider à accéder aux carrières juridiques. Donc en gros, il œuvre pour qu'il y ait de plus en plus de personnes des banlieues ou issues de l'immigration dans la justice française. Donc c'est évidemment une décision politique. C'est là où tu voulais en venir.
Voilà. Gros soutien à Eric Tegner, en tout cas. J'imagine comme ça doit être compliqué. Je sais ce que c'est d'avoir ce genre de condamnation et d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça fait peur. C'est très courageux de sa part de continuer le combat, en tout cas.
Ouais. Et je voulais juste parler du fond du procès très rapidement, parce que je pense que ça m'intéresse les gens qui nous écoutent. Il faut savoir que c'est une décision vraiment politique, parce que Frontier n'a publié que des informations professionnelles déjà publiques, sans adresse personnelle ni autre information privée. Et en réalité, il y a déjà plein de médias comme l'AFP qui publient aussi des noms de magistrats ou d'avocats régulièrement sans jamais être poursuivis. Le tribunal a cependant estimé que le problème venait du contexte accusatoire et stigmatisant de la publication. À l'énoncé du jugement, le juge Youssef Badr a indiqué qu'Eric Tegner ne pouvait ignorer que la publication était susceptible de causer des comportements violents à l'égard des avocats, visés par une rhétorique virulente et une liste accusatoire et stigmatisante. Donc même le fond, c'est n'importe
quoi. Mais moi, ma question, il y en a eu ?
Non.
Il y a combien d'avocats qui ont été agressés, des gens qui sont dans la liste ? Il y a combien de mecs d'extrême droite qui ont agressé un juge, un avocat là ? Rien. Donc c'est du pipeau.
On le condamne sur la formulation qui pourrait entraîner des violences. Mais mec, même là-dessus, mais qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. En fait, là, ce que nous dit la justice, c'est que même si les membres de la justice commettaient les pires erreurs, les pires atrocités...
Faut pas le dire.
Il serait interdit de dénoncer. Parce que ça pourrait causer des comportements violents à leur égard.
Et pourquoi lui, à ton avis, pourquoi le mec il met autant de cœur comme ça à faire qu'on ait ce genre de choses ? Et parce que ça le concerne directement. Parce que lui aussi, certainement, qu'il agit comme une merde. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'il prend des décisions d'enculé, qu'il relâche des salopards dans la nature, etc. Et il a surtout pas envie qu'on vienne mettre le nez dans ses affaires. Donc évidemment, c'est un magistrat véreux qui défend des magistrats véreux. Bah, voilà.
Alors, j'ai pas envie de dire des choses qui ne sont absolument pas sûres, mais ça, c'est le genre de type qui potentiellement, demain, si la France peut être islamisée et aux mains de la créolisation, il en sera très content. S'il peut cracher sur tous les blancs, même les gauchistes qu'ils soutiennent.
On les connaît, ces mecs-là.
C'est des chevals de Troie. D'autres choses à rajouter là-dessus, mec ?
Non, c'est juste, voilà. C'est horrible. Et j'espère que les gens mesurent ce que c'est de ce genre de condamnation, comme c'est violent pour un mec. Je le dis encore, on peut ne pas aimer toutes les positions d'Eric Tegner ou de Frontier, etc. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Frontier ou quoi, donc je n'ai pas d'intérêt spécial avec ça. Mais j'espère que les gens mesurent ce que c'est que de se prendre ce genre de choses, de se prendre ce genre de coups, tu vois. Tous les gars là qui font de la réaction Twitch, etc., dont on parlait tout à l'heure, ces mecs-là, ils ont zéro condamnation, hein, je vous rassure. Hein, ces mecs-là, ils sont bien tranquilles, ils font bien attention surtout de rien prendre. Hein. Ils font pas le quart des sacrifices qu'un mec comme Eric Tegner fait. Donc encore une fois, ça va être les premiers à le critiquer et à voir dire ouais, il a pas pris telle position et tout. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ça. Mais 30 000 euros d'amende, 6 mois de prison avec sursis, ce n'est pas rien.
En fait, là, c'est vraiment la République qui se défend elle-même, qui défend ses affranchis. Parce que là, on arrive au point où, mec, où c'est interdit de critiquer la République ou ses affranchis. Sinon, condamnation.
On peut rien faire.
De les critiquer directement, c'est un truc de fou.
Là, bien sûr.
Vous vous rendez pas compte du niveau de totalitarisme que ça représente.
Bah, il y en a qui s'en rendent compte, à mon avis. Mais...
Pas beaucoup, en tout cas.
Mais oui.
Parce que Frontières, on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais c'est vraiment... Enfin, personnellement. Mais le truc, c'est que...
Ce qu'ils ont fait, c'est
tu vois. Je suis d'accord avec 90% ou je sais pas des trucs que font Frontières, mais c'est pas non plus ma ligne éditoriale parfaite. Là, c'est pas ça qu'on est en train de juger. C'est vraiment la justice française totalitaire. Et en vous parlant de la loi Samuel Paty utilisée par la République à des fins politiques, voici comment ils ont utilisé ce drame pour rincer leurs copains et les affranchis de la République, encore une fois.
J'ai vraiment envie de gerber. On va parler de Samuel Paty, assassiné en 2020, et je vais pas vous refaire l'histoire, je pense que vous la connaissez tous. 6 mois après son décès, l'État débloque 2,5 millions d'euros pour lutter contre la radicalisation en ligne. Et accrochez-vous bien parce qu'on est sur la pire vidéo que j'ai jamais fait sur cette chaîne. L'objectif, c'est de financer des associations qui sont justement dans ce secteur. Alors, il y en a 17 qui sont sélectionnées, mais il y en a une seule qui nous intéresse vraiment. C'est l'UZPPM, qui reçoit 355 000 euros, et je vais taire le nom du dirigeant pour pas avoir de problème. C'est à partir de maintenant que je vous conseille de vous préparer pour la suite de la vidéo parce que c'est à vomir, il n'y a pas d'autre mot. Suite à cette subvention, le Canard Enchaîné nous apprend que le dirigeant de cette association a augmenté son salaire de 500%. Et c'est que le début. On parle également d'une avance sur salaire de 20 000 euros, d'un logement de fonction et le clou du spectacle, une BMW X3 M Sport. Deux petites secondes, mais on parle quand même d'argent pour lutter contre la radicalisation après la mort d'un prof. Utilisé pour acheter une bagnole de luxe. En fait, on en est là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est, je pense, parce que c'est tellement... Bref, et Marlène Schiappa dans tout ça, parce que c'est bien elle qui était ministre à ce moment-là et qui a délivré les subventions aux associations qui ont été sélectionnées. Eh ben écoutez, le rapport du Sénat est sans appel. Les procédures de sélection sont opaques. Vous vous demandez sa réponse, elle nie toute la responsabilité et accuse en diffamation tous ceux qui l'attaquent.
Bon, le reste, c'est l'habituel, mais c'est vraiment le détournement de fonds publics qui est hallucinant.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais déjà des 350 000 euros de subvention, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Même sans parler des détournements, etc. Imaginons qu'il n'y ait pas de détournement, ok? Mais on base sur quoi les sommes là? 350 000 euros, ils ont besoin de... Moi, j'en ai dirigé des associations, j'en dirige encore une, tu vois ce que je veux dire? Je me rends compte, tu vois. Enfin, je veux dire, nous, on a une centaine, plus de 100 bénévoles, tout, on a un bureau, etc. Et on fait avec 10 fois moins que ça, quoi. Donc, pourquoi ils ont besoin? En fait, c'est forcément n'importe quoi dans la gestion, même s'il n'y avait pas de... Tu vois, je veux dire, à un moment... Sur quoi ils se basent pour donner des sommes aussi gigantesques à des associations?
Mais moi, je te dirais que c'est forcément mafieux. Oui. C'est forcément pour
c'est
déconner.
Ça ne peut être que en connaissance de cause. Tu vois, personne ne peut honnêtement dire ils ont besoin de 350 000 euros quand ils connaissent le sujet. Évidemment que non, ils savent que c'est pour s'acheter des BM, avoir des énormes, on l'a déjà dit, hein, on en avait montré, des énormes salaires, des énormes locaux en plein Paris, etc. Enfin voilà, l'argent, il est dilapidé littéralement. Tu vois.
Putain. Quel enfer, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein, à part que c'est n'importe quoi et que, évidemment, il y a un truc intéressant à rajouter, c'est que les associations privées, comme celle avec laquelle tu travailles ou la tienne, ce qui est bien, c'est qu'il y a la loi du marché qui s'applique, c'est-à-dire que tu donnes à des associations dans lesquelles tu as confiance, dans lesquelles tu essaies de voir ce qu'ils font avec cet argent et tu choisis aussi selon ça, parce que tu as envie de donner à une association qui fait quelque chose de réel et qui ne va pas s'acheter des BM ou des bureaux en plein centre de Zurich. Alors que quand c'est l'État qui distribue à des associations, mais là, mec, il n'y a plus aucun incitatif à distribuer correctement. Ça se rince, ça fait plaisir aux copains, ça se fait des fausses facturations, ça se redistribue l'argent. Le public, par nature, ça fait de la merde. Mais bon, je ne vous apprends rien, là. Et est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on enchaîne sur le sujet?
Parce
que
je pense que vas-y, on enchaîne.
Parce qu'une bonne technique pour réduire le pouvoir de cette République et l'État de manière générale, c'est de décentraliser le pouvoir. C'est pour ça qu'on trouvait intéressant cette info sur la Corse, qui pouvait devenir le premier territoire français à obtenir un statut d'autonomie. Je vous mets ça tout de suite.
La Corse pourrait devenir le premier territoire français à obtenir un statut d'autonomie. À partir de ce mardi 16 juin, les députés vont examiner un projet de réforme constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse. Si le texte est adopté, la Corse deviendrait le premier territoire métropolitain à obtenir un statut d'autonomie, alors que la constitution française repose aujourd'hui sur le principe d'une république une et indivisible. Le texte prévoit de reconnaître officiellement la Corse comme une communauté, avec des particularismes historiques, culturels, linguistiques et un lien singulier à sa terre. Concrètement, ça veut dire que la collectivité de Corse pourrait créer ou adapter certaines lois et règles uniquement sur son territoire. Cette réforme, c'est l'aboutissement des accords de Beauvau, négociés après les violentes manifestations de 2022 en Corse. En fait, à l'époque, Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, avait été agressé en prison par un autre détenu et était mort quelques jours plus tard de ses blessures. Sa mort avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes et d'affrontements avec les forces de l'ordre, certains Corses accusant alors l'État de ne pas l'avoir protégé en prison. C'est dans ce contexte très tendu qu'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin avaient accepté d'ouvrir des négociations sur l'autonomie de la Corse. Les défenseurs du texte estiment que la Corse a des contraintes spécifiques liées au fait que ce soit une île et qu'elle a besoin davantage de pouvoirs locaux pour gérer des sujets comme le logement, les transports ou l'économie. Il rappelle aussi que la Corse ne deviendrait pas indépendante et que la justice, la police ou encore la défense resteraient gérées par l'État français. Ses opposants estiment qu'il pourrait remettre en cause l'égalité entre les citoyens français et ouvrir la voie à des revendications similaires dans d'autres régions comme le Pays Basque, la Bretagne ou l'Alsace.
Voilà, pour l'information, je te laisse réagir.
Tout à fait. Alors déjà, la première chose, c'est à tous ceux qui pensent qu'on n'obtient jamais, c'est pas possible par la violence d'obtenir les choses, etc. C'est pas comme ça qu'on fera que ça. Bon, la preuve que si les gens se mobilisaient vraiment de manière violente pour de vrai, bien sûr qu'on obtiendrait plus de contrepartie de la part de l'État, c'est évident et c'en est la preuve. Hein. Je l'ai dit à l'époque des agriculteurs quand il y a eu la dermatose nodulaire, là, je crois que c'était ça le nom, quand on tuait les vaches, etc., il y avait eu 700 agriculteurs qui s'étaient fait éclater par les policiers. Je l'avais dit, si ces 700 agriculteurs, ils étaient venus tous avec leur 12, parce qu'ils en ont tous un, hein. Ces 700 agriculteurs qui avaient un 12 à la maison, hein, et qui ont refusé d'utiliser la violence, je peux vous assurer que si ces 700 agriculteurs, ils étaient venus avec un 12 à la main et qu'ils avaient tiré sur tous les flics qui s'étaient pointés dans le chemin, bizarrement, on aurait eu une fin différente, je vous le donne en mille. C'est le cas avec
l'accord. Sans tirer sur des flics, fois, mec. Même s'ils étaient juste attaqués à des bâtiments publics, ils auraient eu des moyens de négociation.
Bien sûr, mais la fait est que, pareil avec les gilets jaunes, etc., si les gilets jaunes avaient vraiment essayé de rentrer dans l'Élysée armés, avaient riposté contre les attaques des CRS, etc., ça aurait une tournure différente. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que non, c'est pas possible, etc. La preuve que si. La deuxième chose, c'est très intéressant ce qui se passe avec la Corse, parce que si c'est appliqué, c'est une pièce dans l'engrenage. Hein. Je vous invite à lire le travail justement de Rochdi, il n'y a pas longtemps, qui avait parlé justement de la proposition. Il avait imaginé une potentielle parcellisation de la France. Une sécession avec des territoires autonomes, etc. C'était une possibilité d'avenir à long terme, on va dire, à moyen long terme. Ça peut très bien être le premier domino qui mènerait à ça dans quelques décennies. Puisque, voilà, on le sait, aujourd'hui en France, il y a des peuples qui vont devoir cohabiter. Il y a des idées qui sont devenues impossibles à s'entendre, à concilier, voilà, merci, cher Gémeaux, à concilier. Est-ce qu'on va pas revenir vers une certaine féodalité avec des territoires autonomes, etc. Il y a beaucoup de penseurs qui travaillent là-dessus. C'est quelque chose qui a été très, très réfléchi sur plusieurs pays européens.
Comment il s'appelle ce penseur-là ?
C'est probable. J'ai oublié. C'est probable. Ça pourrait être le premier truc. Moi, je l'encourage, évidemment. Hein. Il faut démanteler la République. Et ceux qui pensent que, la France, elle doit être unie, indivisible, etc. La France historique, ou je ne sais pas quoi. La France, ça n'est que très récemment que c'est une nation au sens propre, général, avec un peuple unique, tout ça. C'est pas ça. Et voilà, c'est post-révolution. Hein. La France, historiquement, ce sont des territoires autonomes, ce sont des duchés, ce sont des comtés, ce sont des vassaux du royaume de France selon les époques. Ce sont des peuples qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes traditions, etc.
Avant la Révolution, il n'y avait que 15% des habitants du territoire français qui parlaient le français. Paris et dans ses alentours. Tout le reste parlait occitan, breton, ils avaient leur culture locale, leur folklore.
Mon oncle, qui est breton, qui est paix à son âme, je crois qu'il est né en 43, si je me rappelle, il était né en 43 en Bretagne, jusqu'à l'âge de 15 ans, il ne parlait pas français. Là, je parle de 1943, hein, ouais, d'accord. Ses parents n'ont jamais parlé français. Et à l'époque, quand il vivait en Bretagne, quand il est allé travailler à Paris, les gens disaient « tu vas en France ». Ça, c'était dans les années 50. Enfin, dans les années 60, du coup, pour lui. Les années 60. D'accord. Il est allé ouvrir une crêperie à Paris dans les années 60 et à l'époque, les gens se disaient « tu vas en France ». Donc, on parle pas de… Là, je parle même pas d'avant la Révolution. Hein. Aller demander en Alsace, demander en Savoie si les arrière-grands-parents, ils étaient des Français, des citoyens français qui parlent français, etc. Vous verrez, c'était très différent.
Donc, si t'as donc, c'est d'autant plus au Pays Basque ou en Corse, où il y a encore plus d'identité présente.
Exactement. Donc ça, c'est un concept qui est récent. Il ne faut pas croire le bleu, blanc, rouge et la nation France avec le peuple uni, etc. C'est récent. C'est évident. Regardez comme la France est divisée. Je veux dire, en France, tu fais 200 bornes, c'est plus le même paysage, c'est plus la même bouffe, c'est plus les mêmes animaux. C'est ça, hein, la France. Hein. Donc, il n'y a jamais eu de culture française à proprement parler, c'est-à-dire une culture unique. La culture française, ce sont des cultures régionales. Le peuple français, ce sont des peuples régionaux. Donc, même si il y a 100 ans, on va dire, de gloubi-boulga post-révolution, il y a des choses qui restent. Et évidemment, le fait que la Corse soit une île, ça a sauvegardé beaucoup plus ces choses-là, plus le tempérament des Corses qui se sont beaucoup moins laissés faire, il faut le dire, que toutes les autres régions. Et voilà,
c'est un peuple qui est resté très viril. En Corse, les immigrés, ils ne mouffent pas. Hein.
Non,
encore,
c'est un peu immigrés,
il ferme leur gueule. Hein.
Vous savez, il y a un truc qui trompe pas. Regardez, vous allez en Corse, il y a des mecs qui se baladent à moto, etc., sans casque. C'est une connerie, hein. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quel Français aujourd'hui peut faire ça ? Quel français peut... Je parle pas des mecs dans les cités. Hein. Je parle pas dans les cités, etc. Je parle d'un français. Ouais. Quel français peut prendre sa moto et se balader sans casque sans se faire arrêter par les gendarmes et se faire enculer? Non, mais c'est ça. Tu te fais immédiatement éclater. Pourquoi en Corse? Non. Parce que les gendarmes, ils savent très bien que s'ils commencent à leur casser les couilles, ça va partir en vrille.
Mais c'est très bien comme ça.
Donc c'est un tout petit image. Je dis pas que c'est bien, pas bien. Faut pas déformer les propos. Je dis juste que c'est une preuve. C'est quelque chose. C'est un signe qui trompe pas.
Ah ben moi, mec, t'es en moto, tu veux pas porter ton casque, c'est ta responsabilité, oui, t'as ton assurance.
Évidemment, évidemment, mais je l'utilise juste comme c'est un signe qui trompe pas qu'ils se sont pas fait complètement avaler par la République.
Oui, c'est un très bon signe d'ailleurs. Mais ça se voit, mec, ils sont beaucoup plus couillus que les métropolitains, hein, sincèrement.
Bien sûr.
Et en fait, d'un point de vue historique, juste pour terminer là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est la République française, comme je vous l'avais déjà mentionné, c'est l'État français centralisateur qui, depuis la Révolution, fait tout pour tuer les cultures françaises. Les folklores, les langues, les spécificités, interdiction à l'école, des massacres post-révolution, etc., etc., etc. C'est l'État français qui a détruit les cultures françaises, les gars.
Bah, tout à fait, tout à fait. On a créé le mythe de la nation, république, etc. Et au fur et à mesure, on a effacé ce qu'était la vraie culture française, évidemment.
Putain, quel enfer! Et ça ne va pas s'en rappeler les États-Unis qui sont fédérales et où justement chaque État a beaucoup de choses à dire sur les taxes, l'immigration et sur plein de choses de ce type-là. D'ailleurs, la Corse aurait son mot à dire, va avoir son mot à dire si ça passe en ce qui concerne les gens qui peuvent s'installer en Corse. Donc, ils vont pouvoir gérer leur propre immigration. Ils obtiendraient des pouvoirs normatifs pour pouvoir adopter des lois, règlements nationaux aux conditions corse. Et même dans certains domaines. Elle-même fixer les normes et les règles à mettre en place. Il y a des choses comme la fiscalité qui ne sont pas explicitement accordées par la révision constitutionnelle elle-même. C'est la loi organique qui viendra après, qui définira précisément les domaines concernés. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, dans un pays fédéral, il y a une compétition fiscale, ce qui fait que chaque zone est incitée à moins extorquer les gens pour attirer les riches, les investisseurs, les entrepreneurs, etc. Donc ça peut être une bonne dynamique aussi. Est-ce que je peux terminer avec une petite citation, mec?
Allez, vas-y.
Petite citation de Curtis Yarvin, dont le penseur auquel faisait référence Baptiste, ou un des penseurs auquel faisait référence Baptiste, j'imagine, qui a d'ailleurs été publié par Rushdie. Les Américains et les Européens ne résisteront pas à l'immigration massive. Bon, lui, il est un peu plus négatif, un peu plus pessimiste. Et les Américains et les Européens ne résisteront pas à l'immigration massive et au remplacement de population. Vous savez, cette idée qu'ils vont prendre les armes ou autre chose, cela n'arrivera pas, absolument pas. Ce qui va se produire, c'est exactement ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ils finiront par admettre qu'ils ont perdu leur pouvoir et leur pays à jamais, puis ils resteront tranquillement chez eux, construisant toujours plus de barbelés et de clôtures électriques jusqu'à qu'ils soient finalement exterminés lors d'un grand pogrom. Voilà l'avenir, voilà ce qui arrivera à vos enfants. Bon, ça c'est très pessimiste, mais en tout cas ça va dans le même sens de la sécession, et cette sécession elle peut bien se passer ou mal se passer, et ça va dans... Et moi je pense sincèrement que de par son fédéralisme et de par sa culture, les États-Unis ont beaucoup plus de chances de sauver le cul que les Européens.
Tout à fait, on verra. C'est tout à fait probable, selon les gouvernements fédéraux qui seront élus aux États-Unis dans le futur, que des États entiers tombent, hein, tu vois, et que justement, et qu'il commence à y avoir des compétitions entre inter-États, qui soient des fossés qui se creusent entre les États, qui soient beaucoup plus importants. Là où je ne le suis pas, et je pense que c'est parce que je vis ici, donc je l'expérience, mais dans beaucoup d'États du Sud, les gens ne pourront jamais se laisser massacrer par... c'est impossible. Enfin, c'est jamais impossible, tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas 28 millions de Texans qui vont se laisser massacrer par l'immigration, par l'immigration massive, surtout si vraiment il y a des pogroms ou ce genre de choses. Je veux dire... on parle d'un peuple qui est surarmé, surentraîné, suréquipé, qui a la culture et la volonté de se battre, qui a énormément, énormément, énormément de soldats, parce que c'est le Texas, c'est l'État qui envoie le plus de soldats à l'armée américaine. Donc bon, on va s'arrêter là-dessus, parce qu'il faut que j'y aille.
Ouais, c'est vrai, tu m'avais prévenu. Merci mec pour aujourd'hui. Désolé. Merci à tous dans le chat. La rediffusion sur Patreon dans quelques minutes. J'arrête mon blabla parce que t'es pressé. Ciao poteau, merci, à bientôt.
À très bientôt. Bye.